Afrique, Africa Radio, présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupeau. Le débat.
Bonjour, soyez les bienvenus. Nous serons avec vous au cours des 52 prochaines minutes pour décoder certains sujets qui ont fait l'actualité de cette semaine sur le continent. Bonjour Francis Laloupeau.
Bonjour Liliane, vous allez bien ?
Très très bien, merci beaucoup.
Et bonjour j'espère à toutes que vous... et à tous.
Oui. Voilà, bienvenue donc à tous. Francis.
Alors, premier sujet donc, Liliane, c'est la Guinée aujourd'hui.
Oui, et vous le savez, dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, au moins 9 personnes ont été tuées cette semaine lors de violentes protestations contre le projet de révision de la Constitution. Un amendement qui devrait en réalité permettre au président Alpha Condé de pouvoir se porter candidat à la présidentielle de l'année prochaine. C'est du moins l'intention que lui prête l'opposition. Fiction ou réalité ? Sur cette question, le président guinéen n'a toujours pas clairement dévoilé ses intentions. Quelle sera l'issue de ce bras de fer ? Qui oppose partisans et opposants de la révision constitutionnelle, analyse.
Et nous resterons, Liliane, dans la sous-région, précisément en Côte d'Ivoire, pour parler d'une autre présidentielle prévue également en 2020.
Et Guillaume Soro, ancien chef rebelle, ex-président de l'Assemblée nationale, a annoncé officiellement sa candidature à cette élection. Depuis plusieurs mois, son entourage et lui-même ont donné suffisamment d'indices à l'opinion, peu surprise finalement par cette annonce. Alors Soro, candidat à la présidentielle, menace ou plutôt plus de chances pour la paix dans une Côte d'Ivoire déjà empêtrée dans de fortes querelles politiques, décryptage.
Oui, il y en a un dernier sujet, troisième sujet, le nouveau chantier du nouveau président tunisien. Un président largement élu.
Kais Saied prend les rênes de la Tunisie alors qu'elle traverse de graves crises, surtout sécuritaires, économiques et sociales. 15,5% de taux de chômage au quatrième trimestre 2018, selon l'Institut national de la statistique. Autant dire, Francis, que l'emploi fait partie des urgences. Dans son entourage, on admet que son mandat ne sera pas facile. Parviendra-t-il à redresser et à relancer une Tunisie économiquement sinistrée ? Débat, c'est dans un instant, mais avec vous, Francis, d'abord le plateau.
Oui, notre grand témoin invité dans cette édition, Liliane, au téléphone avec nous, Ali Ouba, président du mouvement démocratique libéral, le modèle, parti de l'opposition en Guinée. Ali Ouba, bonjour.
Bonjour à tous vos auditeurs.
Merci d'être là. Un confrère invité également dans cette édition, au téléphone depuis Abidjan, Patrice Yao, journaliste, directeur général du quotidien Le Matin. Patrice Yao, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Petite fiche de présentation de notre grand témoin invité, Ali Ouba. Vous êtes né en 1984 à Labé, en Guinée, détenteur d'un diplôme en finance et des sciences politiques des universités Kofi Annan et JLC Symphonie à Conakry, consultant et analyste en développement local. Vous avez été le directeur de la communication du parti Bloc Libéral et directeur de campagne du candidat de ce parti, le docteur Faya Mili Mouno, aux élections présidentielles de 2015. Depuis août 2018, vous présidez le mouvement démocratique libéral, modèle, formation politique inscrite dans l'opposition en Guinée et membre du Front National de la Défense de la Constitution, le FNDC, coalition formée récemment pour contester le projet de changement de constitution, projet donc prêté au pouvoir guinéen. Vous avez été élu meilleur leader politique de l'année de la jeune génération lors de la cérémonie des J-Awards. C'était en décembre 2018 à Conakry. Ali Ouba, vous serez notre grand témoin dans cette édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Voilà pour le plateau, Liliane.
Et le premier sujet, évidemment, c'est la Guinée. La réponse du pouvoir aux manifestations contre un éventuel troisième mandat initié cette semaine par le FNDC, le Front National de Défense de la Constitution, est-elle la plus appropriée ? Des leaders de ce regroupement ont été arrêtés et sont poursuivis en justice pour atteinte à l'ordre public. En même temps, les forces de l'ordre ont chargé et 9 personnes ont été tuées d'après un bilan officiel contesté par l'opposition. Écoutez les précisions mercredi de la correspondante de BBC Africa Conakry, Makeme Bamba, jointe par Ferdinand Gogoua.
Effectivement, le gouvernement a publié une déclaration hier nuit sur les antennes de la radio et télévision nationale où il parle de 9 morts, dont 8 à Conakry. Ce bilan intervient alors que jusqu'au mardi, le gouvernement s'était fixé sur 2 morts, dont un seul à Conakry. D'après la Croix-Rouge que nous avons pu joindre, la plupart des corps sont à l'hôpital Ignace Dine. Alors, le gouvernement déplore aussi beaucoup de blessés, notamment par balles et autres projectiles, et d'importants dégâts matériels.
Les descentes des forces de l'ordre dans les quartiers ont été signalées. Est-ce qu'elles se poursuivent?
Oui, ces descentes se poursuivent. À Conakry, par exemple, la capitale, il y a plusieurs quartiers qui sont touchés. Ce sont des quartiers de la banlieue, Ouanindara, Koza, Koloma et Amdalaï. Des quartiers qui sont le long de la route Le Prince qui est favorable à l'opposition. Nous avons visité certaines familles hier où des gendarmes ont lancé des gaz lacrymogènes dans les concessions même des riverains. À la recherche de jeunes manifestants, nous ont confié ces familles. En effet, les manifestants s'étaient pris lundi au PA, qu'on appelle ici point d'appui, qu'ils ont saccagé ou incendié par endroits.
Voilà, Monsieur Alioubba, nous aurons le temps de revenir sur les explications données tout à l'heure sur la réponse militaire aux manifestations par la correspondante de BBC Afrique. Mais d'abord, quelle est votre réaction au bilan de 9 morts fournis par le gouvernement? Est-ce que ce bilan est conforme ou plutôt éloigné du vôtre?
Oui, à peu près conforme, mais il a évolué parce qu'on parle aujourd'hui d'une dizaine de morts. C'est vrai qu'il y a encore des travaux qui se prennent d'être menés parce que les conditions dans lesquelles la population vit sont des conditions de traumatisme très élevées. Il y a des descentes dans les domiciles, votre correspondante vient de le signaler. Et étant donné que la loi guinéenne fait des domiciles privés des cadres inviolables, à moins que ce ne soit quelque chose qui soit ordonné par un juge, il y a systématiquement des cas de disparition parce que on parle même pas d'arrestation en Guinée, on parle de kidnapping parce que la plupart des acteurs du FNDC, notamment les leaders, ont été arrêtés dans des conditions qui ne respectent aucune procédure légale. Ce sont des descentes musclées, des arrestations musclées et très souvent par des personnes cagoulées en pleine journée dans la capitale et qui portent voulait atteindre à toutes les libertés collectives et individuelles.
Oui, vous parlez d'arrestations, disons, arbitraires. Mmh. Vous décriez la traque des manifestants dans les domiciles privés par les forces de l'ordre. Du coup, est-ce que vous voulez dire que vous ne trouvez pas approprié la réponse, la gestion de cette crise par les autorités?
Non, pas du tout, parce qu'elles ont montré, les autorités ont montré leurs limites. Nous avons un Premier ministre qui avait fait une déclaration, ça fait plus d'un an maintenant, qu'il dit qu'il préfère l'ordre à la loi. Et nous avons un ministre de l'administration du territoire qui est un spécialiste de toutes les contre-vérités et a pris un acte illégal pour interdire toutes les manifestations publiques en République de Guinée, étant donné que nous tenons ces droits de la Constitution. Et vous avez dans la même foulée, tous ceux qui manifestent et font la propagande du parti au pouvoir sont encadrés par les forces de l'ordre, ils bénéficient de la sécurité publique, ils sont financés par l'argent public, l'argent qu'on vole de façon flagrante dans les caisses de l'État. Alors on fait de la propagande dans les médias d'État pour tous ceux qui veulent organiser une manifestation en faveur de du parti au pouvoir et de ceux qui veulent promouvoir ce projet illégal. Donc ceci est tellement flagrant qu'on a l'impression qu'on n'a plus un État, mais plutôt une mafia qui gouverne la Guinée, des gens qui veulent imposer leur dictat au gré de leur agenda et de leurs humeurs. Nous sommes sortis systématiquement du cadre légal. La Guinée n'est plus gouvernée au regard de la loi. Elle est gouvernée au regard des désidratats d'un homme qui est tombé malheureusement dans l'ivresse du pouvoir, parce que c'est l'obsession qui amène aujourd'hui Alpha Condé et tous ceux qui le soutiennent à vouloir se maintenir au pouvoir coûte que coûte. Et derrière tout ça, c'est un clan qui s'est organisé en oligarchie, parce qu'ils ont des intérêts financiers très importants, particulièrement dans le secteur minier, où ils ont toutes leurs tentatives.
Excusez-moi, Monsieur Ba, je suis obligé de vous interrompre. Nous ne souhaitons pas tomber dans la diffamation. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Nous voulons bien parler des manifestations de cette semaine avec la réponse des autorités. Francis.
Oui, Alioubba, en appelant à manifester à compter du 14 octobre dernier, le FNDC ne pouvait pas ignorer que les autorités allaient réprimer ces manifestations. Est-ce qu'il était possible, selon vous, de mener d'autres actions dans le cadre de cette crise pour ne pas en arriver aux violences qu'on a observées cette semaine?
Mais d'abord, je précise que mes propos sont loin d'être des diffamations et ils sont vérifiables. Ceci dit, je vais répondre à la question de Francis. Sachez que le FNDC a commencé ses activités il y a environ 6-7 mois maintenant. Nous avons eu plusieurs options que nous avons envisagées avec le gouvernement. Nous sommes passés par la dissuasion, nous avons fait de la communication, nous sommes parvenus à convaincre nos compatriotes que ce projet de nouvelle constitution n'est pas légal, parce que la constitution guinéenne, dans aucune de ses dispositions, ne permet à un président de la changer pour la faire remplacer par une autre. Des procédures de révision sont possibles pour certaines dispositions qui ne sont pas intangibles, mais évidemment que ces paramètres de sensibilisation ont été utilisés. Nous avons même utilisé des approches diplomatiques pour que des personnes encore mieux indiqué, discute avec le président pour l'amener à changer d'avis et bien entendu pour attirer son attention sur la dangerosité du projet. Oui. Donc ça veut dire que jusque-là, des démarches qui ont été menées ont été toutes des démarches légales qui pouvaient être productives si le président avait comme priorité la paix et la stabilité du pays. Oui. Malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous avez un groupe au pouvoir qui est obsédé à l'idée de s'y maintenir sans effet d'une corrélation avec les intérêts financiers, c'est parce que ceci explique cela.
Après deux jours de manifestation de l'opposition, le pouvoir en a appelé à un dialogue. D'ailleurs, le ministre de l'administration du territoire, le général Brahima Kondé, a déclaré que, je cite, « la porte n'a jamais été fermée, cela ne sert à rien de verser le sang, alors que le verbe, dit-il, les mots peuvent trouver la solution », fin de citation. De quelle solution parle-t-il exactement, Brahima Kondé, et de comment dire, un dialogue pour quoi faire aujourd'hui ?
D'abord, au regard de son comportement lui-même, le ministre Brahima Kondé, de ses prises de position, ses déclarations, son attitude, il s'est disqualifié, il n'a plus de légitimité. Il ne peut plus être un interlocuteur, d'autant plus que c'est quelqu'un de très mauvaise foi. Nous sommes dans un processus électoral qui n'est pas arrivé à terme et il a renié plusieurs signatures, il a renié plusieurs actes, donc c'est quelqu'un qui n'est plus crédible pour parler de dialogue. Maintenant, vous savez, le Premier ministre avait conduit des consultations que nous avions rejetées parce que, au regard de la loi, je le rappelle, il n'y a pas de possibilité de discuter sur ce que la Constitution a déjà prévu. C'est-à-dire, les intangibilités sont à respecter. Il n'y a pas un mécanisme par lequel on peut abroger la Constitution. Maintenant, un dialogue sur les questions électorales ou des questions catégorielles sont toujours possibles en démocratie. Mais à partir du moment où le président a prêté serment de respecter et de faire respecter l'actuelle Constitution, tout acte qui va dans le sens contraire de son serment est assimilable à un cas de haute trahison. Donc nous sommes des républicains, nous sommes des légalistes, nous ne pouvons pas nous réunir autour de la table pour assassiner notre démocratie sous prétexte que nous voulons dialoguer.
Est-ce que certains partis politiques pourraient aujourd'hui être tentés de se prêter à ce dialogue suggéré par le pouvoir ?
Mais il y a eu déjà certains partis politiques qui se sont prêtés à ce jeu avec le Premier ministre.
Alors, je ne parle pas des consultations, nationales. Je parle du dialogue que le pouvoir propose depuis mardi dernier.
Mais écoutez, il n'y a pas de base, il n'y a pas d'objet de dialogue. Tout ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que la légalité soit observée par tous. C'est en ce sens que nous pouvons construire notre démocratie, que ceux qui sont arrêtés soient libérés parce qu'ils n'ont commis aucun délit, ils n'ont commis aucun crime. Le fait de défendre la Constitution, c'est quelque chose qui est un devoir pour tous citoyens. Ils ne sont pas violents, nous sommes des pacifistes, ils ont été arrêtés dans des conditions illégales. Et alors c'est tout ce que nous demandons. À l'instant où je vous parle, la plupart des leaders sont séquestrés dans leur domicile. Le chef de file de l'opposition, le président de l'UFR, M. Sidya Touré, et tous les autres, alors que tout ça nous sort systématiquement de la République. Comment vous voulez dialoguer, étant donné que vous ne respectez pas la loi, vous ne respectez même pas la morale,
monsieur, et même les cas... Monsieur Alioubah, de toute façon, le pouvoir semble avoir choisi deux approches pour régler la crise. L'approche judiciaire, en arrêtant les leaders de FNDC, et aussi une approche sécuritaire. Est-ce que, selon vous, cette stratégie a affaibli les partisans de la non-modification de la Constitution ?
Non, au contraire, ça les a galvanisés, parce que ce qu'on est parvenu à réussir, c'est que Le FNDC est un état d'esprit. Ce n'est plus une histoire de leader ou d'association. Tous les Guinéens se sont appropriés le combat du FNDC. Raison pour laquelle vous avez aujourd'hui de la résistance. Parce que je vous assure que le président et son clan ont beaucoup œuvré pour anéantir les contre-pouvoirs politiques et institutionnels, pour penser aussi obtenir un boulevard dans lequel ils allaient s'engouffrer. Pour
et comment s'organise-t-elle, comment cette résistance s'organise-t-elle quand on sait que le FNDS n'a pas appelé à de nouvelles manifestations, il n'y a pas de nouveau calendrier clair appelant aux manifestations. On a l'impression que le pouvoir est peut-être en train de réussir non seulement la manche, mais peut-être même le bras de fer.
Non, pas du tout, parce que nous avons déjà publié une déclaration hier appelant, bien entendu, à des nouvelles manifestations au début de la semaine prochaine. Le calendrier de ces manifestations sera décliné dès ce week-end. Actuellement, nous sommes en train de prendre toutes nos dispositions.
Donc vous maintenez votre appel aux marches anti-changement de la Constitution.
Tout à fait, rien n'a changé à ce niveau. Nous maintenons le cap, nous continuerons de résister. Parce que nous avons le droit de résister face à l'oppression et les manifestations sont prévues dans la Constitution. Ça fait partie des libertés que nous avons chèrement acquises et que nous tenons à préserver, quel que soit le prix à payer.
On va demander à notre confrère Patrice Yao qui suit tout ça depuis Abidjan. Patrice Yao, alors comment tout ça est vu depuis Abidjan, cette saison de crise, nouvelle saison de crise, nouvelle séquence de crise en Guinée-Conakry?
Écoutez, je pense que la Guinée, qui est un pays voisin, la Côte d'Ivoire, partage une frontière avec la Guinée. Je pense que ce qui se passe en Guinée préoccupe aussi les Ivoiriens et c'est extrêmement important. Pour nous, je pense que pour la génération que nous, on incarne, vous pouvez vous deviner aisément que ce qui nous préoccupe, c'est que quand la Constitution dit, écoutez, il faut peut-être deux mandats ou trois mandats, bon, il faut certainement que on puisse respecter cela. Vous savez, la Guinée, on a le sentiment aujourd'hui que pour nous autres qui n'avons pas connu les années précédentes, les années du président Sékou Touré et autres, mais on a lu dans un livre d'histoire, mais on a le sentiment que l'histoire se répète en Guinée. On a connu un peu les différents présidents qui se sont succédés. La Guinée est un pays immensément riche. Et il faut vraiment que les hommes politiques ou les Guinéens se retrouvent et qu'ils travaillent à bâtir un pays solide. Parce que je pense que c'est extrêmement difficile parfois de tenter ces genres d'opérations et après ça se retourne contre soi-même. Il faut véritablement qu'on puisse travailler en tout cas à solidifier nos États, plutôt qu'à chercher certainement à créer certainement des pouvoirs forts.
Quelle est l'issue aujourd'hui, Patrice Yao, quand on sait que l'opposition, tout au moins une bonne partie de l'opposition, les partis majeurs comme l'UFDG ou l'UFR, de Sélou d'Alain Diallo et de Sidya Touré ont boycotté les consultations. Et on vient d'entendre M. Ba dire qu'il en sera de même pour le dialogue que souhaite le pouvoir. Aujourd'hui, c'est quoi la solution pour réconcilier les deux camps?
Mais écoutez, moi je suis d'une culture et j'appartiens à un pays où on a reconnu un président de la République qui fait du dialogue l'une des religions de la Côte d'Ivoire. Et donc pour nous, on pense que...
Quelles que soient les conditions,
puisque n'importe comment, on va finir par se retrouver pour échanger. Donc je pense qu'on peut éviter, échapper à cela, mais ça va arriver un jour, que ce soit entre les Guinéens eux-mêmes ou même avec la communauté internationale. Mais ils vont se retrouver, c'est une crise qui est là qu'il faut gérer. Donc je pense que c'est vrai, pour l'instant, on est encore dans les émotions, et donc ça, on comprend l'action de l'opposition, je ne partage pas non plus, je ne suis pas en train non plus de dire que l'action ou l'acte que le régime pose, que je la salue, non, pas du tout, non, que je salue plutôt. Donc je veux dire que pour moi, c'est le dialogue qui devait pouvoir prévaloir, plutôt que bon, toute autre chose, que ce soit au niveau de l'opposition qu'au niveau, en tout cas, du régime.
Merci.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Avec notre grand témoin invité, Aliou Ba, président du mouvement démocratique libéral, le modèle, parti de l'opposition en Guinée, notre confrère invité dans cette édition depuis Abidjan, au téléphone, Patrice Yao, journaliste, directeur général du quotidien Le Matin. Ali Ouba, alors donc, on continue de parler hein, de cette crise en cours en Guinée qu'on a créée. Au cœur de cette crise, des velléités de changement de la Constitution, velléités prêtées au pouvoir en place. Alors, Ali Ouba, quelle sera... on a vu hein, la CEDEAO plus réactive vis-à-vis de certaines crises. Je pense notamment à la Gambie ou à la Guinée-Bissau. Comment vous expliquez l'attentisme de la CEDEAO à l'égard de la situation en Guinée? Attentisme, en tout cas, observé jusqu'à présent.
Écoutez, oui, c'est vrai, mais il y a quelque chose de remarquable que la CEDEAO a eu à faire récemment, notamment le colloque de Niamey, parce que la CEDEAO actuellement est présidée par le président du Niger, oui. Qui d'ailleurs a clarifié sa position par rapport à ce type de questions au Niger. Oui. Nous savons que l'Afrique de l'Ouest est la région qui a fait plus d'avancées que toutes les autres régions du continent en matière d'alternance ces dernières années. La Guinée ne peut pas se dérober à ce contexte sous-régional qui est très important parce que nous avions même salué ce colloque et les conclusions de ce colloque de Niamey.
Mais ce n'était pas un colloque consacré à la Guinée. Le colloque n'était pas consacré à la Guinée, il était consacré aux questions constitutionnelles en général. Et pendant ce colloque, les anciens chefs d'État présents ont également dit non à un troisième mandat qui serait, disons, irrégulier.
Tout à fait. Et je précise que le FNDC avait été invité à ce colloque et nous avions des représentants qui ont réaffirmé à ces anciens chefs d'État la situation particulière de la Guinée et ces anciens chefs d'État ont promis de prendre toutes les dispositions utiles au moment opportun pour bien entendu défendre la légalité constitutionnelle. Donc nous ne pensons pas que la CEDEAO soit indifférente. Au contraire, nous pensons que nos voisins sont très vigilants. Monsieur Yao l'a dit tout à l'heure, la Côte d'Ivoire et la Guinée, pratiquement, c'est des pays qui sont bon, c'est des pays voisins, bien entendu. La paix menacée en Guinée ou la stabilité menacée en Guinée, ce serait la même menace sur l'ensemble des pays voisins. D'autant plus que tous ces pays sont quasiment convalescents pour certains ou d'autres même sont dans des crises profondes. Donc personne n'a plus intérêt à ce qu'un pays de la sous-région soit déstabilisé. Oui. Surtout la Guinée, c'est un pays qui vient de loin. On a connu plusieurs formes de dictature. La population a beaucoup souffert. C'est pourquoi nous nous battons maintenant pour ne pas qu'on nous reproduise encore les mêmes schémas qui vont nous conduire au même résultat.
Je voudrais un peu revenir sur la question de Francis concernant la CEDEAO. Donc, vous estimez que la CEDEAO joue pleinement le rôle qu'attend l'opposition dans cette crise politique, cette nouvelle crise politique dans votre pays ?
Nous attendons avec beaucoup d'optimisme que la CEDEAO prenne des positions très claires, mais en attendant, vous pouvez en être certain que nous sommes en contact avec des chefs d'État de la CEDEAO, des anciens chefs d'État de la CEDEAO, auprès de qui nous avons fait des plaidoyers et qui nous ont garanti que, bien entendu, qu'ils accompagneront la Guinée dans le cadre du respect de la légalité constitutionnelle. Donc ce sont des positions de principe connues, ce n'est plus un mystère. Et bien entendu,
est-ce que vous attendez que la CEDEAO va plus loin en disant clairement qu'elle est opposée à toute démarche visant à réviser la Constitution et qui pourrait déboucher à un troisième mandat du président Alpha Condé?
Tout à fait. Nous attendons cette position de la CEDEAO et nous espérons qu'elle le dira au bon moment, bien entendu.
Comment appréciez-vous, M. Ba, la divergence de vue quant à la gestion de cette crise politique? Vous, de l'opposition, vous parlez de répression de manifestations, mais on a vu le chef d'état-major dans un communiqué, le général Namori Traoré, féliciter les forces de sécurité pour leur discipline et le professionnalisme avec lesquels elles ont conduit sur le terrain les opérations de maintien de l'ordre public.
Écoutez, le monde entier aujourd'hui est témoin de cette brutalité, de cette violence. Nous avons des cas de mort et des morts par balle. Il y a déjà des vidéos qui circulent, le monde entier a vu comment est-ce que les forces de défense...
Mais il a qualifié ces vidéos de manipulation des images.
Écoutez,
qui tendent à décrédibiliser l'action des forces de maintien de l'ordre public.
Justement, venant de lui, ça ne nous surprend pas. De toutes les façons, aujourd'hui, on ne peut plus cacher quoi que ce soit. Le monde d'aujourd'hui et celui d'avant sont complètement différents. Ces images sont des images authentiques qui ont été relayées par des médias crédibles. Et bien entendu, les Guinéens ont ces images-là qu'ils filment, c'est dans leur domicile que ça se passe. c'est dans leur quartier que ça se passe. Donc personne ne peut nous convaincre que ce sont des images manipulées. Donc une déclaration comme celle-là, elle est méprisante pour les familles des victimes, et vous avez le gouvernement qui ne publie même pas un communiqué pour exprimer une compassion par rapport à ces victimes, comme si ces victimes ne sont pas des Guinéens. Mmh. Alors le ministre, avec légèreté, il peut vous dire il n'y a que 4 morts, il n'y a que 9 morts, comme si ces humains-là n'ont pas de valeur à leurs yeux. C'est d'ailleurs ce qui est plus choquant et regrettable, c'est parce que ce régime, dans son obsession, est en train de déshumaniser complètement la Guinée. La vie humaine n'a plus de sens au regard de nos dirigeants, étant donné que dans notre constitution, la vie, elle est sacrée, et sa préservation est directement liée à la responsabilité du président de la République qui a la charge de préserver le caractère sacré de la vie humaine.
Justement, Ali Houba, on sait que le président Alpha Condé a déclaré récemment, lorsqu'il se trouvait à New York, qu'il fallait que les Guinéens se préparent à un référendum, comme si finalement le chantier de changement de la Constitution était déjà engagé. Mais est-ce que vous pensez que c'est Alpha Condé qui reste aujourd'hui le principal acteur de cet agenda, ou alors l'agenda d'une modification d'un changement de la Constitution est désormais porté par ce qu'on pourrait qualifier d'ultra au sein du pouvoir?
Écoutez, ça ramène à une bonne partie de ma réponse tout à l'heure quand je parlais de ceux qui ont des liens directs avec des secteurs clés de l'économie où ils se sont construits une oligarchie. Et bien entendu, c'est Alpha Condé qui le veut. Maintenant, où se trouve aujourd'hui le véritable centre de décision, c'est une question qui mérite d'être posée parce qu'il semble qu'il y a des mutations autour de lui. Oui. Vous savez, il y a des confidences d'ailleurs qui ont été relayées, et le parti au pouvoir a pris des communications allant dans ce sens, pour dire qu'il voulait faire une déclaration au troisième jour des manifestations pour appeler à l'apaisement et bien entendu annoncer une décision importante. Oui. Mais il semblerait que les caciques et certains extrémistes autour de lui l'ont empêché de le faire. Ça se dit, on va mettre ça encore au conditionnel en attendant de
ça
le couper.
Ça a été rapporté dans la presse, en tout cas.
Important. Voilà, ça a été porté à la presse. Ce qui veut dire que on connaît dans beaucoup de pays africains que ça peut se passer comme ça, où à un certain moment, le président émet l'idée et tout de suite, elle l'échappe et elle se retrouve sous le contrôle de certaines personnes qui ont acquis un certain espace de pouvoir. Et finalement, il se dit qu'en reculant, il risque de les avoir contre lui.
Donc vous voulez insinuer que le président est peut-être pris en otage par les caciques?
C'est une hypothèse. C'est une hypothèse qu'on ne peut pas exclure à ce stade-là.
D'accord. On va revenir en quelques mots encore, si vous permettez, s'il vous plaît, en très brièvement, sur ce que vous avez affirmé tout à l'heure. Vous dites que le président de la République porte la responsabilité des morts. Est-ce que celle de l'opposition qui organise ces manifestations anti-réforme de la Constitution n'est-elle pas aussi engagée? Pourquoi je pose la question? Eh bien, parce qu'il y a eu des consultations que l'opposition a boycottées et les conclusions sont connues. Et vous n'attendez pas qu'il y ait une issue aux conclusions de ces consultations. Tout de suite, vous appelez aux manifestations. Est-ce que vous n'êtes pas allé un peu vite en besogne? Est-ce que vous n'auriez peut-être pas dû attendre de voir quelles orientations vont prendre les conclusions avant de savoir si elles vont dans votre sens ou non et ensuite manifester?
Et je reprécise ce que je viens de dire. Je dis, à partir du moment où la constitution guinéenne fait de la vie humaine sacrée et il appartient au président de la République de respecter et de faire respecter la constitution, ça veut dire que tout acte par lequel on ôte la vie à un Guinéen qui ne soit pas dans des conditions légales, le président de la République porte une responsabilité sur cet état de fait. Maintenant, dire qu'on est allé trop vite en besogne, d'abord, à partir du moment où les manifestations constituent un droit constitutionnel, on ne peut pas trouver une période exceptionnelle par laquelle, à travers laquelle on peut exercer ce droit ou une autre période. Maintenant, il y a eu plusieurs efforts qui ont été fournis. Le résultat des consultations avec le Premier ministre, nous en savons déjà, et lui-même dit avoir déposé les conclusions. Ceci n'a pratiquement pas intéressé des personnes crédibles et des institutions représentatives. Aujourd'hui, le FNDC regroupe toutes les organisations et institutions représentatives au pays. Donc ça veut dire que attendre quelque chose dans ce sens-là, c'était de faire de la diversion et pour gagner en temps. Merci. Et Francis Laloupo l'a noté tout à l'heure, le président de la République a dit à New York avec ses partisans, au même moment où le Premier ministre faisait ses consultations, il a demandé à ce que les
Guinéens se préparent au référendum. Merci.
Débat BBC Afrique, Africa Radio.
Suite de la BBC Afrique, Africa Radio, notre grand témoin invité, Aliou Ba, président du mouvement démocratique libéral, le modèle, parti de l'opposition en Guinée, et notre confrère invité au téléphone depuis Abidjan, Patrice Yao, journaliste, directeur général du quotidien Le Matin. On va parler de la Côte d'Ivoire, justement, avec Guillaume Soro, hein, Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale, au cœur de l'actualité cette semaine en Côte d'Ivoire. L'annonce n'a pas surpris grand monde, il faut le dire. Guillaume Soro a confirmé cette semaine sa candidature à la prochaine présidentielle de 2020. L'annonce n'a pas été faite en terre ivoirienne, mais depuis Valence, en Espagne, samedi dernier, tout en espérant l'emporter dès le premier tour, hein, il a dit. Il a quand même indiqué que, en cas de second tour du scrutin, le candidat de l'opposition le mieux placé pourrait compter sur le soutien de tous les autres. Une règle du jeu non encore formalisée, mais qui clarifie un peu plus la stratégie que devrait adopter l'opposition. L'opposition qui se met en ordre de bataille, on le sait, pour mener la mère de toutes les batailles contre le RHDP, le parti du président Alassane Ouattara. Alors Patrice Yao, première question pour vous, pour cette actualité. Alors d'abord, il y a eu un contexte, c'est-à-dire qu'avant d'annoncer sa candidature, Guillaume Soro a indiqué que en début de semaine, de la semaine dernière, des policiers d'Interpol Espagne se sont introduits nuitamment dans son hôtel pour l'interpeller, et après avoir refusé de les suivre et après avoir longuement échangé avec eux, ces personnes se seraient finalement retirées, et Guillaume Soro accuse le pouvoir ivoirien d'avoir monté cette opération. Alors Patrice Yao, quel intérêt le pouvoir ivoirien aurait à entreprendre de telles actions à l'encontre de Guillaume Soro?
Écoutez, je pense que le pouvoir, le gouvernement de Côte d'Ivoire, à travers donc le ministre des Affaires étrangères, le ministre Amontano Marcel, a fait un communiqué dans lequel il a expliqué carrément, clairement, que le gouvernement n'est dit de peine liée à cette affaire. Donc, pour nous, on considère que certainement le président, l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Soro, qui a commis les avocats pour instruire, poursuivre cette affaire, certainement qu'ils vont trouver peut-être les coupables, mais pour l'instant, le gouvernement a clairement expliqué dans un communiqué qu'il n'en est pas, responsable. Donc, je pense qu'il faut peut-être chercher les coupables ailleurs, mais je ne sais pas franchement qu'est-ce qu'on peut dire.
Comment vous comprenez que Guillaume Soro désigne quand même aussi clairement le pouvoir? Pour lui, le pouvoir tenterait de l'humilier, dit-il, en multipliant les tracasseries telles que l'annulation d'un visa pour les États-Unis ou le retard mis à la délivrance d'un nouveau passeport. Pourquoi Guillaume Soro serait-il plus visé par les foudres du pouvoir que d'autres opposants comme Henri Konan-Bédié?
Écoutez, je m'excuse, mais je pense qu'il faut...
Je vous pose la question.
Non, je comprends très bien, mais M. Guillaume Soro était ancien président de l'Assemblée nationale, il a été membre donc du RHDP, il a décidé donc de sortir du RHDP, il en est parti, il est l'adversaire donc du président de la République, le régime est en place. Écoutez, c'est pas pour cela qu'il devient systématiquement une cible pour le gouvernement ou le régime en place. Le président de la République, M. Alassane Ouattara, qui est à la tête donc d'une coalition politique qu'on appelle le RHDP, a expliqué autour de cette tournée, à plusieurs occasions, que la Côte d'Ivoire est un pays démocratique. En 2020, tous ceux qui souhaiteraient être candidats, toutes les candidatures seront recevables, le Conseil constitutionnel va faire son travail pour valider les candidatures ou pas. Et donc, je pense que pour moi, le plus important, c'est trois niveaux. Vous savez, l'opposition, le pouvoir, on connaît un peu ce jeu-là. Et M. Guillaume Soro, plus ou moins, nous sommes Ivoiriens, nous nous connaissons, nous savons, nous suivons un peu l'actualité. Je ne vois pas particulièrement la main du pouvoir absolument dans tout ce qui lui arrive. Écoutez, vous n'êtes plus président de l'Assemblée nationale, il y a un certain nombre de... vous bénéficiez, vous avez des privilèges, des avantages, mais vous ne les avez plus. Et si vous ne les avez plus, bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va pas quand même refaire le monde. Donc je pense qu'il faut regarder cela et il faut pas toujours chercher à accuser le pouvoir ou le régime ou alors X, Y personne. Vous n'êtes plus président de l'Assemblée nationale, vous n'êtes plus à tête d'une structure, vous n'avez pas d'avantage, vous n'avez pas... Écoutez, vous êtes considéré comme un citoyen ordinaire, c'est un député qui a une immunité, et député d'une localité, et donc bon, point très...
Vous voulez dire que vous avez le sentiment que Guillaume Soro en fait un peu trop?
Ben écoutez, moi je n'ai pas le sentiment, mais je pense que c'est ce qui est. Je le dis simplement parce qu'on était plus ou moins un peu habitués à cela, et puis on a été tous étudiants, fessistes, et on se connaît un peu, mais bon, pas tout à fait. Mais je pense que on a besoin de plus que ça. Vous savez, madame, la Côte d'Ivoire, on revient de loin, on vient de très loin. Et nous avons vécu une situation. C'est pour ça que la situation que la Guinée est en train de vivre, d'accord, et qu'on est en train de nous inquiéter. Alors, mais pour nous, la Côte d'Ivoire, ce que nous avons connu, aucun Ivoirien n'a envie de retomber là-dedans.
D'accord, vous allez nous dire comment éviter une situation de 2010-2011. Alors, je voudrais vous poser la question sur l'annonce de sa candidature. Je l'ai dit en début d'émission, ça n'a pas été une surprise. Il y avait tellement d'indices, parmi lesquels le fait d'avoir rencontré des journalistes africains basés à Paris à un moment donné pour avouer son intention de se porter candidat. Mais le fait que ce ne soit pas une surprise, est-ce que vous pensez que, vous considérez que c'est un avantage pour lui et peut-être a-t-il, est-ce que cela lui a permis peut-être de prendre de l'avance sur les futurs candidats en termes, disons, d'occupation de l'espace médiatique?
Écoutez, madame, je suis ivoirien, je suis journaliste. Et je pratique ce régime qui est en place, je suis en Côte d'Ivoire. Pour moi, je pense que ce n'est pas une surprise. Guillaume Soro, depuis tout le temps, je pense que la dernière marche que n'importe quel responsable politique...
Oui, nous sommes d'accord que ce n'est pas une surprise. Je voulais savoir le fait que cela ne soit pas une surprise. Est-ce que cela lui donnait un avantage par rapport à ses adversaires qui ne se sont pas encore déclarés comme lui?
J'en viens, madame, parce qu'on a eu des dernières élections ici. En parlant d'avantage, on a eu des élections locales ici l'année dernière, au mois de novembre 2018. M. Guillaume Soro a des partisans qui se sont présentés aux élections local, c'est-à-dire au niveau donc des mairies et puis des conseils régionaux. Mais écoutez, il en est sorti avec des... Parce que ça devait renforcer sa cote de popularité par rapport à ses ambitions de 2020. Mais il en est sorti avec quoi? Rien du tout. Il est sorti absolument rien. Même la zone où il est, il n'y a personne. Il s'est retrouvé avec peut-être 3-5 maires dans un pays qui compte près de combien de localités.
Mais enfin, il n'a aucune assise politique, d'après vous?
Non, je pense que l'appareil politique dans lequel il était, qui était le RHDP, oui, était un appareil politique fort. Ça, il faut le nier. Donc, je pense que c'est un peu comme ça. Aujourd'hui, on fait beaucoup de communication à l'aide des réseaux sociaux, mais il faut qu'on fasse un peu attention. De mon point de vue, hein, pour moi, mais bon... pour ne pas empêcher à quelqu'un de faire ou de dire ce qu'il pense.
Là, vous écoutez, Patricia, on a l'impression que vous parlez d'un agitateur professionnel. Hein.
Non, un activiste des réseaux sociaux.
Non, du tout, ce ne sont pas mes mots. Je veux dire, on constate, M. Guillaume Soro est très actif sur les réseaux sociaux, et je pense que, je ne dis même pas qu'il dort là-bas, mais il a des équipes qui travaillent. Voilà, ce n'est pas nouveau. Nous, nous sommes en Côte d'Ivoire.
Merci, Patricia. On va permettre à notre invité, Aliouba, de se prononcer sur cette annonce de candidature à la présidentielle de Guillaume Soro. Monsieur Ba, je voudrais vous poser cette question. Est-ce que son lien avec l'ex-rébellion des Forces Nouvelles et avec les anciens présidents Gbagbo, dont il avait été le Premier ministre, puis avec Alassane Ouattara, il a été président de l'Assemblée nationale avant de se brouiller. Est-ce que vous pensez que ce parcours peut lui servir et le positionner comme un homme de consensus? Parce qu'à un moment, il a beaucoup joué le rôle de faiseur de roi, courtisé par les différents rivaux. Est-ce que c'est un avantage qui peut faire de lui un homme de consensus encore aujourd'hui?
À mon avis, d'une part, oui, mais d'autre part aussi, ça peut être un handicap. Je suis de près la situation ivoirienne, c'est un pays que j'aime bien. Alors, Guillaume Soro est bien avant, évidemment, l'une des personnalités politiques ivoiriennes aujourd'hui les plus en vue et incontournables. Parlant justement de son implication dans tout ça, la nouvelle armée ivoirienne, elle a été réorganisée autour de la rébellion. Il y a beaucoup d'officiers aujourd'hui qui sont en position de décision, qui quand même avaient une plus grande proximité avec Guillaume Soro que n'importe quel autre acteur politique. Alors, qu'il se lance dans la bataille pour 2020 aux élections présidentielles, déjà, moi, j'avais interprété cette démarcation comme étant, si vous voulez, un signal fort, parce qu'il ne, dans la famille du RHDP, il ne se voyait pas suffisamment soutenu pour être investi comme candidat de la coalition. Je pense que être le candidat conciliateur, je ne vois pas trop parce que il y a un esprit de méfiance, bien entendu, qui habite le milieu politique ivoirien. Je ne vois pas le FPI lui faire assez confiance pour l'amener à porter sa voix ou peut-être le soutenir. Mais il y a une opposition contre le RHDP qui peut bien sûr s'organiser. Combien de temps elle va tenir? Quels sont les termes de référence pour son fonctionnement? Là, il faut attendre voir. Mais je pense que Guillaume Soro jouera une carte forte Mais je ne suis pas convaincu que 2020 sera une année au cours de laquelle il peut être élu président de la République.
Liliane, je vais devoir émettre une demande particulière parce que vous savez que certaines contraintes horaires m'obligent à me retirer à ce stade de l'émission. Je peux vous laisser piloter l'émission jusqu'à son terme ?
Bon, je vous l'accorde, Francis Laloupo. Oui. Merci à vous.
Merci,
et on se retrouve la semaine prochaine.
Et je salue Ali Ouba et Patrice Yao. Et évidemment, vous êtes en très bonne compagnie avec Liliane Yacha.
À bientôt, Francis. À la semaine prochaine. Nous allons encore poursuivre avec vous, monsieur Ali Ouba, donc ce sujet sur la candidature de Guillaume Soro. Que représente-t-il aujourd'hui, d'après vous ? Vous avez dit que vous suivez particulièrement la situation politique en Côte d'Ivoire. Que représente-t-il aujourd'hui dans le contexte politique actuel ? Est-ce que c'est un Guillaume Soro, un danger pour une élection apaisée en 2020 ou plutôt un atout ?
Bon, moi, je pense qu'il a un rôle plein à jouer sur le moyen et sur le long terme, d'autant plus qu'il est relativement jeune, on peut le dire comme ça, et que la Côte d'Ivoire, comme la Guinée, vit une situation de mutation générationnelle. Ça se fait de façon irréversible. Il y a eu d'anciennes classes politiques dont le discours devient de moins en moins audible. Il y a une jeunesse qui demande plus et qui se reconnaît moins, que ce soit Alassane Ouattara dans le futur, que ce soit Bédié ou Laurent Gbagbo. Donc il y a un espace politique qui se recompose. Je suis de près certains jeunes tels que Katabé et d'autres qui quand même essayent de se positionner. Et on verra bien tout ce que tout ça va donner. Mais ce qui est important, à mon avis, Guillaume Soro, je ne dis pas que ce sera 2020, mais dans les années à venir,
il faudra compter avec lui.
C'est un homme de réseau. Et j'ai vu aussi que dans sa stratégie de communication, il s'est beaucoup relooké, il a essayé de refaire son image pour se débarrasser un peu de la rébellion où c'était plus le
Guillaume Soro l'ancien, le costume de d'homme politique.
Tout à fait, d'homme politique et d'homme d'État. Et
merci.
Je pense que c'est quelque chose qui peut l'aider.
Patrice Yao, vous ne pariez pas beaucoup sur Guillaume Soro en 2020, mais en tout cas, notre invité disait tout à l'heure qu'il ne voit pas le FPI, du moins peut-être la faction Laurent Gbagbo, pour un rapprochement avec le Laurent Gbagbo, avec Guillaume Soro, pardon. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être peut-être le cas avec le PDCI ? Peut-être que le meeting du week-end à Yamoussoukro va peut-être donner quelques surprises, va livrer quelques surprises.
Oh non, je pense que le meeting de Yamoussoukro au niveau du PDCI, le PDCI a été très clair que c'est un meeting de vérité pour démontrer à tous ces cadres qui ont rejoint le RHDP que le PDCI est encore très fort et qu'il a une capacité de mobilisation. Et donc c'est un meeting du PDCI et on l'espère, c'est pas un meeting d'une certaine coalition qui est en train de se préparer.
Du PDCI, du FPI, puisqu'on annonce la participation du camp de M. Adou du FPI.
Oui, mais je vais dire que
les partisans de Guillaume Soro ne sont pas invités.
Je ne sais pas si c'est le débat, mais en fait, je crois que ce que le PDCI a annoncé depuis toujours, c'est que c'était un meeting strictement d'un meeting du PDCI, mais je crois que par rapport à la capacité de mobilisation, il faut peut-être associer tout le monde pour qu'on puisse démontrer que, bon, écoute, on est capable de mobiliser certainement. Mais je pense que pour moi, aujourd'hui, est-ce que M. Guillaume Soro, avec le PDCI, ils vont se retrouver? Je pense qu'il y a déjà des contacts qui sont noués, hein, et on le voit. Je pense et je le dis. Il y avait un test, je crois, il y a eu un test l'année dernière au niveau donc des élections locales qui ont permis en tout cas de jauger du poids des uns et des autres et pour vérifier, regarder un peu quel est le parti qui pèse le plus en Côte d'Ivoire. Et je pense que.
Oui, mais d'accord, vous l'avez dit en quelques mots, Patrice, vous avez dit que les élections locales ont permis de voir le poids politique plutôt maigre, d'après vous, de Guillaume Soro, de ses proches.
Oui.
Mais aujourd'hui, il y a deux mouvements politiques sur lesquels il compte. Est-ce que vous pensez que ces deux mouvements politiques peuvent peut-être aider à conquérir plus d'espace dans la perspective de 2020?
Madame, je m'excuse, mais je pense que la Côte d'Ivoire, malheureusement, un peu comme les autres pays en Afrique, ils sont, vous avez les hommes, et puis vous avez des bases, des bastions. Je pense que quand vous regardez les têtes des personnes qui sont parties, qui étaient dans le PDCI, le RDA, qui ont rejoint aujourd'hui le RHDP, et le RDR, le PDCI, l'IDPCI, le MFA, bref, les partis qui composent la coalition des Oufoutistes, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important.
je considère pour moi que ce sont les éléphants du TDCI qui sont partis au RHDP aujourd'hui. Vous prenez par exemple le secrétaire général de la présidence, le vice-président, le ministre de la Santé, bref, il y a une liste incroyable. Donc je veux dire, quand vous regardez dans ces bases, quand vous regardez dans ces zones-là mobilisent à cause des personnes qui étaient dans le TDCI, qui étaient par exemple, qui avaient porté l'étiquette TDCI, mais qui partent aujourd'hui au RHDP. Ce sont les personnes qui comptent. Aujourd'hui, ils se sont présentés à une élection, ils ont remporté toutes ces élections avec l'étiquette du TDCI, et chose du RHDP, je m'excuse. Donc, je vais dire aujourd'hui que c'est extrêmement difficile pour moi de penser que 2020, on va peut-être rabattre les cadres.
Merci beaucoup. Merci. Je suis désolée de vous interrompre. On va passer au prochain sujet. Il nous reste que quelques minutes pour parler de la Tunisie et sans transition. Élu avec 72,71% des voix à l'issue de la présidentielle anticipée du 13 octobre dernier, les Tunisiens ont-ils largement surestimé sa capacité à sortir le pays de la mauvaise passe ou ont-ils vu juste? En tout cas, le président tunisien Kais Saied, 61 ans, qui prête serment en principe la semaine prochaine, a du pain sur la planche. Comment va-t-il s'y prendre pour donner dans un bref délai plus que de l'espoir aux Tunisiens et surtout aux jeunes qui l'ont plébiscité, assommé et lassé par le chômage? 90% d'entre eux ont en effet voté pour lui et ils attendent un retour d'ascenseur. Première question avec vous, M. Alouba. Dans ce contexte que je viens de décrire, le vote de jeunes ne peut-il pas apparaître finalement comme un piège pour le nouveau président?
Bon, pas forcément, parce que pour avoir suivi les élections présidentielles en Tunisie, d'abord, il faut préciser que celui qui a été élu n'a pas fait véritablement de promesses, parce qu'il chaque fois il réitérait qu'il appartenait aux jeunes de formuler leurs attentes et bien entendu qu'il était prêt à matérialiser cela avec eux. Et les jeunes tunisiens ont majoritairement voté pour lui. Selon certains chiffres, aux alentours de 90% des jeunes se sont reconnus en lui. Il a fait une campagne plus citoyenne que politique, parce que c'est pourquoi d'ailleurs les médias ne l'ont pas vu trop venir, parce que c'est quelqu'un qui semble avoir été...
C'est comme si le pouvoir est venu le trouver, le pouvoir est venu à lui. Il n'a pas véritablement fait campagne d'ailleurs.
Sorte, oui. Il a fait un travail de terrain assez formidable qui se révèle maintenant. Quelqu'un qui rencontrait véritablement les jeunes dans les clubs, les associations et tout ça, il semble que c'est un milieu qu'il fréquente depuis des années maintenant. C'est comme si c'était quelqu'un qui se préparait discrètement dans l'ombre.
Mais une fois élu avec les voix de ces jeunes, s'il n'arrive pas à remplir ses engagements, notamment en matière de lutte contre le chômage, est-ce que le piège ne risque-t-il pas de se retourner sur lui? Je veux dire, ceux qui l'ont voté aujourd'hui, risque-t-il pas de le désavouer s'il n'arrive pas à leur apporter de l'emploi comme il le souhaite?
Que s'il n'est pas à la hauteur, bien entendu que la déception soit là. Mais apparemment, les jeunes se sont dit ça ne coûtait rien de miser sur lui et de voir ce que ça va donner dans le futur. La Tunisie, c'est un pays qui a un potentiel immense, certes qui a connu des soubresauts ces derniers temps depuis la chute du régime de Ben Ali, qui a des problèmes sécuritaires. Mais à partir du moment où il ramène la stabilité et la confiance, moi je pense que le potentiel économique peut se libérer de lui-même et la croissance va se créer et les jeunes peuvent avoir des emplois. Merci. Moi je pense que il a des atouts qu'il peut faire valoir et qu'au bout il Merci. Peut obtenir des résultats conséquents.
Patrice Yao, quels sont d'après vous ces quelques atouts dont il dispose pour pouvoir se démarquer très vite de ceux qui ont gouverné le Tunisie post-Ben Ali jusque-là?
Non, je pense que ça va être difficile, je m'excuse, mais à la différence de notre invité, je dirais plutôt que ça va être beaucoup plus difficile pour lui, parce que, vous savez, la jeunesse, elle est impatiente et n'attendra pas, il n'aura pas du tout de répit, parce que tout le monde connaît la situation en Libye, la situation sécuritaire... Il faut
il n'y aura
vite.
Pas d'état de grâce pour lui.
Non, du tout, parce qu'il faut agir vite et tout devient priorité. Donc, je pense que on connaît M. peut-être Caïd comme quelqu'un qui est très discret, il a ton style qu'on connaît, mais là, il s'agit de diriger un pays, il ne sait pas de faire la coordination d'une structure ou d'un mouvement. Ça devient beaucoup plus difficile pour un pays comme la Tunisie qui est, je vais dire... qui a un potentiel énorme. Donc, je pense que ça va être beaucoup plus difficile pour moi.
Vous pensez qu'on a peut-être surestimé sa capacité à sortir le pays de la situation et qu'il pourrait ne pas répondre forcément aux attentes des Tunisiens qui l'ont largement élu?
Bon, je pense que les Tunisiens ont fait un choix entre deux styles, de personnalité. Bon, ils avaient les raisons, mais j'avoue que c'est beaucoup plus difficile. Pas qu'on l'a, pas certainement qu'on a sous-estimé ou qu'il lui-même il a sous-estimé, mais je pense de mon point de vue que ça va être extrêmement difficile pour lui parce que tout va être priorité pour lui.
La sécurité, la situation économique, le social.
Écoutez, on sait comment est-ce que les mouvements qui sont partis du renversement, M. Ben Ali, c'était l'emploi au niveau de la jeunesse. Donc là, il va falloir s'attaquer à cela assez rapidement. Et puis aussi la question donc du terrorisme, la Libye, la Tunisie est très proche de la Libye. Il faut regarder cette question assez rapidement et agir vite. Donc moi, je pense que ça va être extrêmement, extrêmement difficile. Il n'aura pas tant d'un pays pour agir.
Monsieur Aliouba, il y a aussi un autre problème. Il n'a pas de parti politique. Est-ce que vous voyez comment il peut arriver à choisir librement ses hommes tout en se passant des partis existants dont certains l'ont d'ailleurs soutenu lors du second tour? Est-ce qu'il peut avoir la marge de manœuvre, la main libre pour choisir ses hommes pour apporter les changements attendus par les populations alors même qu'il n'a pas d'appareil politique? Et il faut qu'on constitue son prochain gouvernement, le premier.
Tout à fait. Non, dans l'immédiat, bien entendu, il y a des décisions importantes à prendre, mais la Tunisie ne fait pas aux mutations auxquelles les grandes démocraties aujourd'hui font face. Vous voyez que les clivages classiques disparaissent de plus en plus. Les partis politiques, comme ils existaient de façon figée, ne sont plus à la mode. On a vu le cas même aux États-Unis où Trump, c'est pas forcément un programme républicain qu'il est en train de mettre en place. Macron également, ça transcende tout ça. Je pense que ça dénote un peu de ce choix de la jeunesse qui ne se reconnaît plus dans les positionnements figés. Parce que depuis la chute de Ben Ali, on constate que la jeunesse tunisienne se politise de plus en plus. Et ça, c'est important parce que il y a des études qui avaient démontré que cette jeunesse s'éloignait de la politique parce qu'elle était assez désespérée. Moi, je pense qu'il a une réelle marge de manœuvre à partir du moment où il peut puiser dans un vivier de cadres dont les compétences
les
ne sont pas forcément dans l'appareil politique.
Merci.
Et qui sont des technocrates qui peuvent travailler sur des dossiers précis.
Et mettre en œuvre sa politique. Merci beaucoup. C'est le moment d'écouter les réactions de nos auditeurs laissés sur la page Facebook présentée par Didier Ladislas Lando.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @debatbbcafrica et sur notre page Facebook facebook.com/debatbbcafrica.
Bonjour Liliane, bonjour Francis, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Guinée, Alpha Amadou Diallo estime que le président Condé ferait mieux d'abandonner ce projet de révision dont les Guinéens ne veulent pas, car le peuple guinéen reste plus que jamais attaché à la démocratie. De son côté, Jean-Claude Coco demande au leader du FNDC pourquoi exposer les pauvres citoyens au bal réel des forces de Condé pendant que leurs enfants à eux sont tranquilles à la maison et sans souci. Abdoulaye Bamba Diallo demandera à notre invité où il était les jours de la manifestation car il n'a pas été aperçu sur le terrain. Côte d'Ivoire, Charles Bazema affirme que la candidature de Soro est la bienvenue car l'Afrique est fatiguée de l'ancienne élite qui ne fait que diviser pour mieux régner. Victor Louwanga, lui, s'interroge sur les chances de réussite de la candidature de Guillaume Soro si jamais Alassane Ouattara décidait de se représenter, mais également face à un candidat de l'éventuelle coalition entre Henri Kona Bédié et Laurent Gbagbo. Tunisie, Alafi Bokassa estime que l'élection de Kaïd Saïd est la victoire d'une jeunesse éveillée. Merci à Nana Landry qui nous a rejoint cette semaine. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/le-débat-bbc-afrique-africa-radio et sur Twitter à @debat-bbc-afrique. Et d'ici là, bon week-end à tous.
Bon week-end à vous, Didier Ladislas Lando. Monsieur Aliouba, deux, trois phrases de conclusion générale et peut-être répondre à la question de Bamba Diallo qui estime que, bon, vous faites des autres chers à canon, mais vous disparaissez.
Non, mais écoutez, vous savez, on entend souvent ce type de polémiques qui viennent souvent du parti au pouvoir qui tente tout pour décrédibiliser les acteurs politiques. Ce n'est pas du tout vrai parce que nous sommes sur le terrain, nous participons à toutes les activités. Pour ma part, je suis en séjour en France pour un séjour professionnel depuis le début du mois d'octobre. C'est antérieur à la fixation de la date des manifestations et cela est connu
au niveau du FNDC.
Merci beaucoup.
Pas de problème.
Merci à vous et merci à vous, monsieur Aliou Ba, d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez notre invité cette semaine, Aliou Ba, président du mouvement démocratique libéral Modèle, parti politique d'opposition en Guinée. Vous étiez en ligne avec nous de la France. Merci à vous, Patrice Yao, journaliste et directeur de publication du quotidien Le Matin. L'émission a été réalisée à Dakar par Patrice Tévy et chargé de production Didier Ladislas Lando. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine en compagnie, évidemment, de Francis Laloupo. Au revoir.